personnes comme moi ont trouvé une solution. Alcoolique Anonyme. Ça marche pour moi. Pourquoi pas pour vous?
Alcoolique Anonyme. Il y a des réunions partout en France. Notre profession.
Alcoolique Anonyme, 7e sur RCF Rouen, Haute-Normandie. Il y a des alcooliques anonymes, ceux qui veulent sortir et qui sortent de l'alcool, mais il y a aussi des proches qui font partie d'une association Al-Anon, et ce sont ceux qui aident leurs proches. On va voir comment, qui aident ou qui reçoivent, peut-être bien d'ailleurs aussi. Et il y a même les Al-Atin, ce sont les teenagers, les jeunes qui sont proches d'un alcoolique, voilà. Et pour parler des Al-Anon aujourd'hui, des Al-Anon en personne, à ma droite, Jacqueline, bonjour.
Bonjour.
Bonjour Edith.
Bonjour.
Bonjour Pascal.
Bonjour.
Tous les trois, vous avez vécu en proximité d'un alcoolique et c'est un parcours qui continue encore, si j'ai bien compris.
Tout à fait.
Alors Jacqueline, Al-Anon, pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe dans une famille qui fait que on va aller rencontrer les Al-Anon?
Il y a plusieurs cas de figure, parce qu'on peut venir en Al-Anon lorsque le conjoint, le parent, l'enfant qui souffre de cette maladie alcoolique boit encore. Et dans ce cas-là, on vient en réunion Al-Anon pour chercher de l'aide. Où on peut venir une première fois en Al-Anon parce que le malade a arrêté de boire et il y a un petit déséquilibre qui apparaît dans l'environnement et on vient pour chercher de l'aide pour soi-même.
Et Jacqueline, pour vous, qu'est-ce qui s'est passé? Rappelez-vous ou rappelez-nous?
Eh bien, moi, j'ai vécu un grand nombre d'années l'alcool de mon conjoint et il a arrêté de boire un jour et... Je suis venue à sa demande assister à une première réunion à l'Anon parce que il changeait avec très rapidement et je voulais savoir comment moi je pouvais m'adapter à cette nouvelle situation.
Edith, vous avez vécu aussi ce moment où il faut faire quelque chose, où je dois faire quelque chose.
Exactement. Moi, j'ai vécu 25 ans avec mon mari malade alcoolique. Il faut rappeler que c'est une maladie progressive. Donc, et au bout de 25 ans, mon conjoint a décidé de faire quelque chose parce que ça lui posait problème. Donc, il a fréquenté les alcooliques anonymes et il m'a dit qu'il y avait des réunions auprès des Al-Anon et je pouvais y aller pour me renseigner.
Vous êtes allée à une réunion d'Al-Anon aussitôt que votre mari a voulu lui-même aller dans les réunions de son côté?
3 mois après, parce que comme il m'avait promis bons et merveilles pendant des années et qu'il n'avait jamais réussi à arrêter de boire, j'ai attendu 3 mois et je me suis dit pourquoi pas, je vais aller voir ce qui s'y passe.
Qu'est-ce qu'on vit, Edith, quand on est proche d'un alcoolique? Qu'est-ce qu'on vit au quotidien? Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on ressent?
Moi, c'était un alcool. Mon conjoint buvait essentiellement à l'extérieur. Donc, c'était une attente permanente. Je vivais en fonction de son alcool. J'avais la tête pleine de son alcool. Et ma journée passait à attendre le soir, savoir à quelle heure il allait rentrer, dans quel état et s'il allait rentrer.
Je me souviens encore d'une conversation, on me disait que celui qui vit dans la proximité d'un alcoolique, c'est comme on est pris sur un manège.
Oui, c'est-à-dire que l'alcoolique, comme il culpabilise au maximum, nous fait croire que ça n'est pas de sa faute s'il boit, mais c'est de notre faute, c'est de la faute de l'entourage, et il fait en sorte de nous culpabiliser. Et si on était mieux, s'il était mieux accueilli, il rentrerait plus tôt et il ne boirait pas.
Et on se culpabilise un peu soi-même à part à ce moment-là.
Tout à fait, pas un peu, beaucoup, beaucoup.
Si j'étais mieux, si
je l'accueillais avec le sourire, si j'étais une autre femme, oui, ça c'est son rôle à lui de nous faire monter sur un manège et de nous culpabiliser.
Si j'étais parfaite, ça ne serait pas arrivé.
Exactement.
Pascal, vous avez vécu une situation assez différente.
Oui, moi c'est mon beau-frère et ma belle-sœur. Mon beau-frère était un bon vivant. Il prenait l'apéritif tous les
soirs. C'est bien les bons vivants.
Oui, mais tous les, c'est ce qu'on dit. Mais quand on s'aperçoit qu'il boit tous les soirs, il a conduit ivre et il est décédé en état d'ébriété. Donc ça, et il avait deux petites filles qui avaient 4 et 9 ans au moment du décès, que ça se passait dans les années 2000. Donc après, ma belle-sœur a sombré tout doucement dans l'alcoolisme. Et un jour, quand vous vivez avec un malade alcoolique, vous êtes prêt à tout pour qu'il arrête de boire. Donc on nous avait parlé des alcooliques anonymes. Donc j'ai été aux alcooliques anonymes avec ma belle-sœur. Et là, on m'a dit non, il faut aller ailleurs, il faut aller aux Ananons. Et là, j'ai trouvé une fraternité de gens comme moi qui avaient souffert de l'alcool, qui souffraient encore de l'alcool, et j'ai vu des gens joyeux.
Et pourquoi vous êtes allé vous ? Parce que tout de même, ce n'est pas votre couple, hein, c'est votre belle-sœur. Pourquoi vous êtes allé vous ?
Pourquoi j'y suis allé ? Parce que tout l'entourage familial est pris dans, comme disait
Edith, la spirale.
Et à un moment, il faut prendre de la réflexion et vous entendez tellement de bêtises sur les alcooliques en disant ils sont malades, tellement de bêtises que quand vous allez dans la fraternité Ananon, vous avez un autre discours et vous vivez petit à petit pour vous. Vous reculez du malade alcoolique et vous pouvez prendre des décisions pleines de sérénité sur la manière d'élever les enfants, de faire attention à votre malade, de ne pas l'accabler. Et petit à petit, vous vous dégagez des problèmes alcooliques. Et surtout, quand vous allez en Ananon, vous allez mieux. Vous y allez pour vous, pour pas tomber dans le trou avec le malade.
Parce que quand on vit dans la proximité d'un malade alcoolique, en fait, on est un peu dans la confusion. Vous pourriez peut-être dire, c'est quoi ces confusions ? Qu'on mélange un peu tout ? C'est quoi ? C'est le mensonge ? C'est quoi ?
Il y a plusieurs facteurs. Vivre avec un malade alcoolique, d'abord, il y a ce problème très fréquent du déni. Le malade alcoolique ne reconnaît pas sa maladie. Et puis, au départ, quand on ne fréquente ni les alcooliques anonymes ni les Ananons, on ne sait pas que l'alcoolisme est une maladie. Et c'est une des premières choses qu'on apprend en venant en Ananon, que l'alcoolisme est une maladie. Et puis là, on nous apprend également en Ananon que nous ne pouvons rien pour le malade lui-même. C'est lui qui va décider de se soigner.
Oui, on va peut-être y revenir là-dessus, Jacqueline. Mais il y a aussi d'autres points qui me paraissent importants. Peut-être qu'on peut évoquer le mensonge, les questions d'argent aussi.
Bien sûr. Très souvent, le malade alcoolique, le mensonge, c'est avec le déni, puisqu'il nie sa maladie alcoolique et il faut bien sûr qu'il cache tout ce qu'il fait, tous les moments où il va s'isoler pour boire à l'extérieur, boire en cachant les bouteilles à la maison. Tout ça, c'est bien connu de tout l'entourage des malades alcooliques. Mais les problèmes financiers, ben, ça va avec, bien sûr, puisqu'il faut acheter de l'alcool. Donc, c'est souvent des problèmes que l'entourage connaît.
Mmh, oui. Et dites justement, oui, comment on sort de... Pourquoi on décide d'aller à La Réunion ? Qu'est-ce qui s'est passé pour vous ? Il faut que j'y aille, il faut que je fasse quelque chose.
Moi, c'est lors d'une réunion ouverte, c'est-à-dire que mon conjoint fréquentait les AA, et puis il y a des réunions ouvertes où les alliés naturels ou les proches peuvent venir pour savoir ce qu'il en est de ces réunions. Et lorsque je suis arrivée dans une réunion AA, j'ai vu des Ananons qui avaient vécu la même chose que moi. Moi, j'étais à l'état de puzzle, c'est-à-dire que je ne savais même pas qui j'étais. Le fait d'avoir vécu l'alcoolisme de mon mari.
C'est pas mal l'image du puzzle.
J'étais totalement éclatée. Et j'avais en face de moi des personnes qui fréquentaient les groupes Ananon et qui avaient un sourire jusqu'aux oreilles et qui me disaient je suis la femme d'un tel malade alcoolique et je me suis dit je vais quand même essayer de suivre un petit bout de chemin avec elle parce que moi je n'ai rien à changer puisque mon mari décide d'arrêter de boire, je n'ai rien à changer, mais je vais aller voir parce que elles ont le sourire avec tout ce qu'elles ont vécu, elles ont vécu la même chose que moi. Moi, j'avais pas le sourire, j'étais introvertie, j'étais mal, j'étais triste. Et elles avaient le sourire. Et je voulais avoir le même sourire qu'elles et je voulais connaître leur recette.
Je voulais avoir le même sourire qu'elles. Vous, les deux épouses, enfin, c'était votre mari, Jacqueline, comme Edith. Si, ben, on va demander la recette à Jacques Brel, si vous voulez, quand on n'a que l'amour.
Quand on n'a que l'amour à s'offrir en partage au jour du grand voyage, âge qu'est notre grand amour. Quand on n'a que l'amour, mon amour, toi et moi, pour qu'éclate de joie chaque heure et chaque jour. Quand on n'a que l'amour pour vivre nos promesses sans nulle autre richesse que d'y croire toujours. Quand on n'a que l'amour pour meubler de merveilles et couvrir de soleil la laideur des faubourgs. Quand on n'a que l'amour pour unique raison, pour unique chanson et unique secours. Quand on n'a que l'amour pour habiller matin pauvres et malandrins de manteaux de velours. Quand on n'a que l'amour à offrir en prière pour les maux de la terre en simple troubadour. Quand on n'a que l'amour à offrir à ceux-là dont l'unique combat est de chercher le jour. Quand on n'a que l'amour pour tracer un chemin et forcer le destin à chaque carrefour. Quand on n'a que l'amour pour parler au canon et rien qu'une chanson pour convaincre un tambour. Alors sans avoir rien que la force d'aimer, nous aurons dans nos mains, amis, le monde entier.
Alcoolique anonyme, 7e sur RCF Haute-Normandie, quand on n'a que l'amour. Ben c'est bien gentil, l'amour, mais il faut peut-être aussi des moyens. Et je crois que c'est pour ça que vous allez, les uns et les autres, Jacqueline, Edith, Pascal, dans des réunions des Alcooliques anonymes. Alors vous, Pascal, donc, c'était votre beau-frère décédé d'accident suite à l'alcool. Aidez votre belle-sœur et vous aidez vous-même. C'est quoi cette première réunion? Qu'est-ce qui s'est passé?
Bah, la première réunion, c'est vous venez parce que vous êtes perdu. Puis là, il y a des gens qui vous parlent, qui ont vécu la même chose que vous, qui vous donnent des conseils très pratiques, qui vous disent quand tu es angoissé, occupe-toi les mains, essaye d'avoir la tête où tu as les pieds, et qui vous apprennent le détachement. Et petit à petit, c'est un programme régulier qu'il faut pratiquer chaque semaine. Hein. Vous n'y allez pas et vous êtes pas, vous ne trouvez pas la clé. Toutes les semaines, il faut y aller. Et petit à petit, toutes les semaines, votre colère s'apaise. Vous apprenez le détachement avec amour. Vous savez que votre malade est malade, qu'il souffre. Donc, vous essayez de vivre, de bien vivre en dehors du malade. Et vous vous dites, mieux je vis, mieux je veux, mieux je vais. Peut-être qu'un jour, s'il arrête de boire, je pourrai l'aider. S'il n'arrête pas de boire, moi, il faut que j'aille bien, il faut que je vive, parce que la vie est là. Et c'est ma joie de vivre qui fait que j'aide mon malade.
Vous avez été convaincu dès la première réunion?
Dès la première réunion, vous voyez des gens qui sont comme vous. Parce que aller expliquer dans la rue que vous êtes confronté à une maladie alcoolique, on va vous dire « Oui, mais le malade, il n'a qu'à arrêter de boire, il n'a qu'à être fort. » Et dès la première réunion, on vous dit « Le malade, il est malade. » Vous allez bien, bah, débrouillez-vous pour aller bien. Et vous voyez des gens, et petit à petit, tous les jours. Et c'est le seul moment de la semaine où vous pouvez parler de vos angoisses que vous a procuré le malade. Et vous n'êtes pas jugé. On dit, ah, mon pauvre, et bah, tiens, essaye ça, ça va peut-être aller mieux. Fais ci, fais ça. Et c'est des conseils petit à petit qui vous permettent, je le répète, le détachement, l'absence de colère, l'abandon de la colère, la compréhension de la maladie.
Jacqueline, vous vous souvenez un petit peu pour vous de ce qui a changé, puisque votre mari buvait depuis 33 ans, ça n'est quand même pas rien. Est-ce que vous vous souvenez de ce qui a changé en vous à partir de ces réunions?
Je me souviens très bien de ma première réunion. J'ai été accueillie par des amies à l'Anon, qui, elle, allait, comme a dit Edith, qui allait bien. Et j'ai posé mes valises, c'est-à-dire que j'ai vidé toute ma souffrance au cours de cette première réunion. Et quand je faisais part de mes angoisses, elle me disait, ne t'inquiète pas, il est là, il est en réunion, lui, il est il va en réunion alcoolique anonyme. Toi, tu viens en réunion à l'Anon. Vous allez avoir vous allez parler le même langage. Vous allez avoir les mêmes objectifs. Vous allez vivre quelque chose.
C'est pas le même objectif, normalement. Si. Lui, il boit. Moi, je ne bois
non,
pas.
Non, il ne buvait plus quand je suis arrivée là, à ma première réunion.
Pourquoi vous dites que nous avons le même objectif?
Nous avons le même objectif parce que notre programme Alcoolique Anonyme comme à l'Anon est un programme de vie qui nous apprend comment aller mieux, et c'est ça notre objectif, aller mieux, faire vivre le couple convenablement, en harmonie. Et c'est le fait de pouvoir suivre ces deux programmes de vie qui nous ont permis d'avoir 19 ans d'abstinence pour mon mari et 19 ans de bonheur pour nous deux.
À quel signe avez-vous senti les premiers changements en lui, en vous ?
Alors, en lui, eh bien, écoutez, déjà, le fait d'avoir arrêté de boire, ça s'est soldé, bien sûr, par lui, il est passé par un stade maladie, il a eu un problème de santé. Mais quand il est allé bien, je me souviendrai toujours d'un réveil le matin où il m'a dit bonjour avec un joli sourire et une phrase gentille, ce qui n'était pas le cas pendant les années d'alcool. Ça a été un des premiers signes de notre bonheur naissant. Ça a été ça le premier signe. Et puis
et en vous?
Et en moi, eh bien, moi j'ai eu un parcours peut-être un petit peu plus délicat, peut-être plus difficile, parce que j'avais perdu la confiance en lui à cause de ses mensonges, et il fallait que je retrouve cette confiance. Alors j'ai mis un certain temps à lui redonner une entière confiance, c'est-à-dire quand il partait quelque part faire des courses ou à ne plus me dire est-ce qu'il est parti boire, parce que je savais qu'il ne buvait plus,
vous l'auriez pas mis un bracelet électronique quand
non,
même.
Non. Non, absolument pas. Mais la confiance a été un petit peu plus difficile. Mais à partir du moment où je lui ai redonné une entière confiance, c'est là où l'harmonie totale est arrivée.
Edith, on participe aux réunions des Al-Anon parce qu'il boit ou parce qu'il a, aussi s'il a fini de boire?
Ça peut être les deux. Moi, dans mon cas, il avait arrêté de boire. Il a franchi l'abstinence dès sa première réunion aux Alcooliques Anonymes. Mais il y a d'autres personnes dont l'alcoolique boit encore. Et c'est aussi leur place aux réunions à l'Anon. Parce que le but des réunions, c'est apprendre à vivre le mieux possible auprès d'un malade alcoolique, même si l'alcoolique boit encore. C'est le but. C'est pour avoir un programme de vie, pour apprendre à vivre le détachement avec amour, par exemple, hein, ce qui rejoint la chanson de Jacques Brel.
Ouais.
Et c'est le détachement avec amour, c'est de ne pas le surveiller, vivre et laisser vivre l'autre sans qu'il y ait une surveillance, parce que la surveillance ne sert à rien.
Ça a été un peu difficile de faire cette confiance.
Non, moi pour ma part non, parce que mon malade alcoolique ne buvait plus et moi j'ai pris les non ça n'a pas été trop difficile d'ordonner la confiance du tout. Mais par contre, ce qui a été difficile, c'était de lui laisser reprendre sa place. À l'époque, mes enfants avaient 14 et 9 ans. Et les enfants, lorsqu'il intervenait et qu'il était alcoolisé, je prenais leur défense, je prenais la parole à sa place. Et dès qu'il a arrêté de boire, moi, je lui redonnais confiance, donc je lui laissais la place aussitôt. Et les enfants ne comprenaient pas que je n'intervenais pas. Et c'était plutôt eux qui avaient du mal à faire reprendre la place à leur père. Voilà.
Jacques Brel chantait autrefois « La lumière jaillira », mais nous écoutons aussi une question de lumière de l'arc-en-ciel. « Somewhere over the rainbow », par-dessus l'arc-en-ciel. Alcoolique anonyme sur RCF Haute-Normandie. Pascal, votre beau-frère, suite à l'alcool, est décédé dans un accident. Et puis, la belle-sœur était là avec ses deux enfants. Vous avez déjà participé parallèlement, vous, aux réunions des Al-Anon. Qu'est-ce que ça a apporté pour votre belle-sœur, peut-être, et peut-être pour les enfants aussi?
Alors déjà, ça a surtout apporté à moi, à ma compagne. Après, le malade, il vit comme il peut, le pauvre. Et nous, par rapport aux enfants, ça nous a permis de comprendre que les parents avaient souffert, qu'ils étaient dans l'alcool avec une grande souffrance et que c'était pas une période de festif. Et ça nous a évité de dire aux enfants, si vos parents avaient de la volonté, ils auraient arrêté de boire, etc. Les parents avaient beaucoup d'amour pour les enfants. Malheureusement, ils étaient malades alcooliques. Et nous, ça nous a... On a vraiment expliqué aux filles que c'était comme ça, et puis qu'elles devaient vivre et qu'elles devaient prendre du détachement vis-à-vis de leurs parents. Que l'alcool de leurs parents, ce n'était pas un manque d'amour, mais c'était une maladie. Et vraiment, c'est le message, quoi. Ça nous a permis d'éviter la colère, le ressenti, et d'en parler de voir toutes les semaines. Ça nous a évité de dire des bêtises.
Jacqueline, je crois qu'il y a des réunions auxquelles, je ne sais pas si vous y participez, mais ce qu'on appelle les alatines, c'est pour les enfants d'alcooliques.
Ce sont des réunions, les réunions alatines, parce que les enfants de malades alcooliques en général souffrent et n'expriment pas toujours leur souffrance comme ils le pourraient, comme ils le devraient. Donc en venant en réunion alatine, ça leur permet d'abord de s'identifier avec d'autres enfants qui connaissent les mêmes problèmes qu'eux. Parce que quand on a un parent qui est malade alcoolique et qu'on ne peut par exemple pas amener les petits amis à la maison parce que on a un peu honte de ce parent qui boit, eh bien ça permet au cours de ces réunions à Latine de vider là aussi leur pensée, leur tristesse, leur mal-être.
C'est animé par un adulte?
C'est animé par un adulte.
Il y a un animateur, mais il n'y a pas d'autres parents, il n'y a que des jeunes.
Il n'y a que des jeunes entre eux. Jeunes. Et l'animateur n'est là que pour
faire circuler la parole,
mais intervient au minimum.
D'accord. Dans le programme Al-Anon, je lis ici sur un de vos documents, il y a une dimension spirituelle. Et dites, qu'est-ce que ça veut dire, une dimension spirituelle face à l'alcool?
Je pense que Jacqueline est plus à parler de ça.
Je voudrais qu'on donne bien à ce mot spirituel son vrai sens, c'est-à-dire de l'esprit. Ça n'a pas de caractère religieux.
C'est pas lié à une religion.
Ça n'est pas lié à une religion. En Al-Anon, on accueille des gens de toute race, de toute religion, sans religion, etc. C'est ouvert absolument à tout le monde. Et le mot spirituel veut dire que on ne consacre pas sa vie à métro, boulot, dodo, mais qu'on lui donne une dimension de l'esprit.
Récemment, une conférencière à Rouen parlait de l'esprit comme d'un souffle.
Oui.
Souffle qui permet de rebondir, de vivre de nouvelles relations les uns avec les autres.
On nous apprend en Al-Anon qu'on n'est pas seul, si vous voulez. Et voilà. Et l'esprit, c'est ça. C'est l'esprit qui va régner autour de toute la table de réunion.
Et moi, ce qui m'étonne un peu, c'est que vous continuez à participer. Pascal, vous aussi, vous continuez à participer aux réunions d'Al-Anon.
Oui, je continue à participer pour deux raisons.
C'est pas une vieille histoire, tout ça?
C'est pas une vieille histoire parce que c'est une histoire qui nous a marqué. Donc, j'y participe pour pas oublier ce que j'ai vécu. Quand je vois les filles, c'est pas pour toujours éviter de savoir ce qu'on a vécu. Et c'est aussi parce que maintenant je vais bien et je suis là. Enfin, j'essaye de transmettre, d'accueillir les gens quand je les vois en leur disant, bah, moi, j'ai vécu ce que vous vivez et maintenant je vais bien. Il faut qu'on est là dans un, c'est pour transmettre dans un chaînon, hein, dans
une partage. Transmission, une interaction.
Et quand vous êtes très mal et que vous voyez des gens qui vont bien 10 ans après, ou 12 ou 14 ans après, bon ben voilà, on leur dit, on sait par où vous passez. Si vous venez, vous pourrez vivre comme nous. Et ça nous rappelle aussi d'où on vient. Et ça nous met aussi certaines valeurs toujours en tête.
Il y a donc des réunions des Al-Anon à Rouen, tous les mercredis à 20h30 à la CAF, la Caisse d'allocation familiale, place Saint-Vivien face à l'église Saint-Vivien. Au Havre, le lundi soir à 20h30 à l'hôpital Flaubert, la maison du patient. Il y a d'ailleurs un site internet, Alcoolique Anonyme, on tombe pratiquement tout de suite sur internet. Ces deux mots-là vous permettront sûrement de tomber sur le site internet France et puis facilement d'aller sur Normandie ensuite. Avec un numéro de téléphone 02 35 10 71, 69. Voilà, Jacqueline, Edith, Pascal, on arrive à la fin de cette émission. On n'a pas tout dit ?
Non, on pourrait parler pendant des heures et des heures.
Edith ?
Oui, c'est vrai, on n'a pas tout dit. On n'a pas tout dit.
Pascal, le combat continue ?
C'est pas un combat,
voilà.
C'est la vie. Et venez, si vous êtes côtoyé l'alcool, vous verrez qu'on peut vivre bien à côté de gens qui consomment malheureusement de ce produit, et la vie continue, c'est la vie.
Bon, les trois sourires devant ce micro ne sont pas à l'écran. Merci.